Merci beaucoup. Évidemment, je me sens tout petit après de telles communications et considérer mon intervention comme un intermède comique. Je vais simplement vous, je voudrais vous expliquer les, pour résumer avec la chanson de Charles Trenet, le soleil a rendez-vous avec la lune au Japon, et vous verrez que le soleil est la lune d'une certaine façon, et se réunissent dans la lumière. On pourrait encore citer le mystère de la, le secret de la licorne, n'est-ce pas, et c'est de la lumière que viendra la lumière. Et enfin voilà, comme vous le savez, et après les chefs-d'œuvre immortels de Michael Crichton, réimmortalisé par Sean Connery dans The Rising Sun, l'appellation pseudo-traditionnel, enfin, vous allez voir, du Japon, c'est le pays du soleil levant. Et effectivement, le nom du Japon, c'est bien, n'est-ce pas, Nihon, qui, le mot occidental Japon venant lui-même d'une prononciation chinoise actuellement Juban, n'est-ce pas, mais c'est, enfin, vous voyez comment ça, on est passé de Juban à Japon. Si on le lit très littéralement en japonais, la ligne 2, Hinomoto no Kuni, le pays de la racine du soleil, de l'origine du soleil. Et l'un des plus anciens monuments de la littérature japonaise, vous voyez qu'il y a une faute magnifique, ce n'est pas 820, c'est 720, je vous indique dans quelles conditions j'ai fait ce PowerPoint. Donc les chroniques du Japon, vous voyez bien, Nihon Shoki, c'est un texte rédigé en chinois classique, et aussi, ce sont les chroniques du Japon avec l'appellation qui est encore officielle du Japon maintenant. En 607, donc plus d'un siècle avant ces chroniques du Japon, vous avez l'un des premiers incidents diplomatiques entre la Chine et le Japon, qui est la lettre du prince Shotoku, qui est quasiment qui a un rôle politique prédominant à l'époque, à l'empereur Yang des Sui, donc de la dernière dynastie chinoise qui précède les Tang, et qui dit en substance, le fils du ciel, Tenchi, n'est-ce pas, du lieu où le soleil se lève, envoie la présente, envoie cette lettre au fils du ciel, du lieu où le soleil se couche. Alors, je traduis très littéralement pour que vous compreniez bien que l'empereur Yang n'a pas été amusé, et qu'il a dit à son chancelier de l'époque, « Si les barbares de l'Est ou du Sud se montrent discourtois dans leurs missives, nous n'avons plus à les entendre. » Donc vous voyez que l'appellation du pays du soleil levant, pays de la racine du soleil, était en quelque sorte le nom diplomatique du Japon à usage extérieur, et qui a été bien sûr officialisé dans les rapports avec l'étranger. Je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Au Japon même, le nom, comme vous le savez peut-être, le nom du Japon, le nom courant du Japon à l'époque, plus maintenant, c'était Yamato. Yamato, littéralement, porte de la montagne. Il y a plusieurs étymologies possibles à ce mot, mais je vais vous donner l'étymologie qui nous concerne la plus directement, puisqu'elle est liée au soleil. Donc, c'est, comme vous le savez, je vais passer sur la mythologie japonaise qui est somme toute assez riche et qui est consignée aussi à partir du début du 8e siècle. Et l'un des événements fondateurs est ce que l'on pourrait appeler l'occultation de la déesse du soleil, Amaterasu no Mikami ou Amaterasu no Mikoto, c'est pas littéralement le grand dieu, la grande divinité qui éclaire le ciel. C'est son nom. Je vous passe les détails de sa généalogie. Elle était affligée d'un frère, Susanoo no Mikoto, qui était assez turbulent. Et il s'effrasque, devenant de plus en plus impudente. La déesse Amaterasu ne peut supporter la chose et se cache dans une grotte. Nous voyons ici la période d'occultation de la déesse. Vous voyez que le personnage ne tenait absolument aucun compte de la valeur artistique des illustrations que je vous donne. Elles sont toutes récentes, elles datent au mieux du 19e siècle, n'est-ce pas ? Mais elles donnent assez fidèlement, elles restituent assez fidèlement la lettre de la mythologie. Donc elle est cachée dans la grotte de la montagne, dont un des dieux essaye d'ouvrir la porte, et les dieux sont désemparés dans l'obscurité. La comparaison qu'on utilise à ce sujet, d'ailleurs, est peu respectueuse à l'égard des divinités. Elles sont bruissantes comme les mouches du cinquième mois. Et bref, il faut faire sortir la déesse, parce que là encore, sans revenir à la théologie de Cavanna dans Les Aventures de Dieu, nous avons une contradiction entre le fait que la déesse solaire appartient à la septième génération de Dieu, et ce qui impliquait que les dieux précédents étaient dans l'obscurité. Alors, nous avons de nombreux indices qui montraient que ça n'était pas. Enfin, bref, pour faire sortir la déesse, l'une des déesses fait le premier striptease de l'histoire du Japon, qui sera très riche par la suite, évidemment. Et vous voyez, la déesse se met sur un baquet, alors c'est représenté de plusieurs façons différentes, en le tapant fort du pied, et elle se dénude peu à peu. Le Nihonshoki dit plus. Un autre texte, je simplifie, dit pudiquement qu'elle baisse sa ceinture jusqu'à son nombril. Et ce qui provoque une réaction très humaine chez les dieux, ils éclatent de rire. La déesse, poussée par la curiosité, sort et réillumine le monde avec aussi un épisode très intéressant, c'est qu'il y a un miroir qui est ici représenté, je pense, à gauche de l'image, et ce miroir saisit son reflet, et l'un des dieux lui dit, il y a une divinité tout aussi prestigieuse que vous qui est ici, ce qui fait que la déesse s'avance dans la mue en quelque sorte par la jalousie, s'avance hors de la caverne, et on referme définitivement la porte. Donc vous voyez, la porte de la montagne peut être reliée à le nom japonais de Yamato, peut être relié à cet épisode, et d'une certaine façon, donc, le pays de la racine du soleil, le nom officiel, et le nom plus spécifiquement autochtone, sont reliés d'une certaine façon à ce mythe solaire. Comme vous le savez, la déesse Amaterasu est la, je passe aussi les détails, est l'ancêtre de la maison impériale japonaise, par quelques vicissitudes qu'il n'est pas besoin de rappeler. Donc, vous voyez que quand même la mythologie solaire est présente dès le début de la culture japonaise, et on s'attendrait à ce que ces représentations du soleil comme symbole du Japon, qui va de soi pour nous tous, n'est-ce pas, aient été présentes tout au long de l'histoire. Or, il n'en est rien, et si l'on il n'en est pas tout à fait ainsi. Et je prends par exemple l'une des. Je voulais vous donner l'illustration, mais je n'ai pas eu le temps. C'est ce poème très célèbre d'un des grands théoriciens du nationalisme culturel japonais, Motori Norinaga, qui est mort en 1801, vous voyez, c'est tout récent, a fait ce poème que l'on voyait, par exemple, encore jusqu'à récemment, gravé et calligraphié sur les mosaïques du temple du dieu de la ville, n'est-ce pas, de Taipei, la capitale de Taïwan, qui était colonie japonaise, c'est pas comme vous le savez, enfin, province japonaise lors de l'impérialisme japonais. Donc c'est un poème très symbolique. Si l'on demande quel est le cœur du Japon aux îles déployées, bon, je n'insiste pas sur la façon pourquoi j'ai traduit Shikishima par île déployée, c'est une licence poétique. Donc, si l'on demande quel est le cœur du Japon aux îles déployées, la réponse, ce sont les fleurs de cerisier sauvage qui resplendissent au soleil levant. Là, il n'y a pas de doute, nous sommes en pleine représentation du Japon comme soleil levant. Et évidemment, lors de la période nationaliste japonaise, vous voyez à gauche le lotus bleu de Tintin, n'est-ce pas, le drapeau du soleil levant, Hinomaru, à droite, le drapeau de la flotte, mais qui est considéré le plus souvent comme la flotte impériale japonaise, qui a de mauvaise mémoire, je dirais, au point que lors des Jeux olympiques de Londres en 2012, vous voyez que la deuxième personne à partir de la droite et la première à partir de la gauche ont une figuration qui a été prise par certains pays d'Extrême-Orient comme réminiscente du drapeau impérial japonais, et ça a déclenché tout un incident diplomatique. Donc, mais si nous regardons l'un des premiers l'un des premiers exemples de l'évocation du Japon à l'étranger, qui date du 8e siècle, c'est un poème qui est contenu dans une anthologie extrêmement connue au Japon, je ne reviens pas dessus, vous voyez, j'ai donné le Hyakuni Issho, donc, et c'est le 7e poème. C'est ce Abe no Nakamaru est allé en Chine où il a dû, malheureusement, je ne sais pas, mais il a, pour lui en tout cas, et pour les Japonais qui ont réfléchi à sa vie après, il a dû finir ses jours parce qu'il n'a pas pu rentrer au Japon, donc il est devenu très haut fonctionnaire de la Chine impériale, et on garde de lui ce poème tout de nostalgie, n'est-ce pas, qui est donc dans les 100 poèmes représentatifs de la littérature japonaise, un recueil qui est encore très lu jusqu'à maintenant. Vous voyez, tandis que je contemple la vaste plaine du ciel, au mont de Mikasa, tout près de Kasuga, est-ce bien cette lune qui s'est levée ? Ce sont deux toponymes de voisins de la ville de Nara, d'un sanctuaire shinto très très célèbre. Et vous voyez qu'on se serait attendu pour un japonais, même de l'époque, que ce soit le spectacle du soleil levant qui lui évoque le Japon. Or, pas du tout, c'est la lune, n'est-ce pas ? Évidemment, c'est aussi un thème poétique chinois, mais vous voyez qu'ici, la lune est le symbole du Japon. Et si dans ces 100 poèmes typiques du Japon, vous n'avez pas un seul poème sur le soleil. Si l'on parle de l'aurore embrumée, c'est pour mentionner la lune du matin, n'est-ce pas ? Donc, vous n'avez aucune vous n'avez rien à ce sujet. Et de même que si vous regardez l'immense ensemble de la poésie japonaise, des recueils poétiques japonais du Moyen-Âge, on parle de la lumière du soleil. Alors je donne un peu de vocabulaire. Hikari, n'est-ce pas ? Hikari, la lumière du soleil. Les occurrences sont infiniment moindres que celles qui sont consacrées à la lumière de la lune, soit sous ces deux termes, n'est-ce pas ? Soit tsuki no hikari, c'est-à-dire la lumière à proprement parler, soit tsuki no kage, kage qui veut dire la lumière reflétée, l'ombre. Donc hikari, c'est la lumière directe. Alain hier parlait de lux et de lumen, et kange, qui veut dire à la fois, alors le japonais est une langue assez typique en ce sens où le mot kange signifie à la fois lumière et ombre, n'est-ce pas ? C'est-à-dire c'est la lumière reflétée. Et donc c'est les occurrences de tsuki no hikari sont très, très nombreuses, tsuki no kange encore plus. Et excusez-moi, encore une fois, il y a une erreur à la fin. Ce n'est pas Hinokage, c'est Tsukinokage. Vous l'aurez rectifié de vous-même, n'est-ce pas ? Clarté lunaire, clair de lune. Vous avez aussi, alors l'un des grands thèmes culturels l'un des grands recueils poétiques qui ont fondé vraiment la tradition littéraire japonaise qui date du début du XIe siècle, ces recueils de poèmes japonais dignes d'être récités, composés de 133 rubriques, et vous n'avez pas une seule rubrique concernant le soleil. De même, dans l'une des grandes anthologies impériales japonaises de 905, les poèmes anciens et modernes, Kokin Wakashu. Vous avez très peu de poèmes sur le soleil. Je laisse tomber quelques objections qu'on pourrait me faire, mais qui seraient très vite balayables. Et je voudrais m'arrêter à ce poème plus particulier, voyez, qui est très célèbre aussi. Alors, je vous fais grâce des toponymes, mais nous sommes quand même encore dans la province de Nara, c'est-à-dire au cœur du Yamato, n'est-ce pas ? C'est-à-dire le Yamato était le nom traditionnel d'une province centrale du Japon, et par métonymie, c'est devenu le nom du Japon. Asasakuma, à un coude de la rivière du soleil, arrêtant ta monture, fais-la boire un instant, et tu entreverras son reflet, le reflet de la divinité du soleil. Et vous voyez que ce n'est pas le soleil qui est célébré ici, c'est le reflet sur les ondes de la lumière du soleil, toujours indirect. Et vous voyez que dans le texte japonais que vous avez, le dernier vers, c'est « kange » et pas « hikari ». C'est le poème de reflet. Alors, toute cette histoire se mélange avec quelque chose de très important. Vous aviez des dieux au Japon, et puis la religion bouddhique est arrivée au milieu du VIe siècle, donc avant le prince Shotoku dont je vous parlais tout à l'heure. Et le bouddhisme avait une théologie, c'est parce qu'on parlait d'une bouddhologie et une théologie. Dans cette bouddhologie, dans cette représentation du monde, vous avez ce que tout le monde connaît sous le nom des six voies, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que le Bouddha est quelqu'un qui dépasse les six voies, la roue de l'existence, et parmi ces six voies, vous avez la voie des dieux. C'est-à-dire que pour le bouddhisme, les dieux indiens, n'est-ce pas ? Indra, pour reprendre Pierre Dac et Francis Blanche, n'est-ce pas ? Brahma, la création, Shiva, la destruction, et Vishnu, la paix. Les dieux du bouddhisme indien étaient de vulgaires renaissables, si j'ose dire. Or, ça a passé au début au Japon, et puis après, ça a eu de plus en plus de mal à passer pour les divinités japonaises. Les mettre dans la voie des dieux, donc des dieux qui seraient condamnés à renaître, ça n'allait pas. Si bien qu'est apparu, je simplifie grandement, mais est apparue cette idée de l'assimilation des dieux et des bouddhas, c'est-à-dire des dieux japonais et des bouddhas et des bodhisattvas indiens. Je vous donne les termes techniques. Et dans le cadre de cette assimilation, notre déesse Amaterasu, n'est-ce pas, Amaterasu est devenue celle qui éclaire le ciel, est devenue assimilée, je vais vous donner les termes techniques tout à l'heure, mais c'est assimilée à ce qui est considéré dans le bouddhisme japonais comme le Bouddha suprême, entièrement d'origine indienne, n'est-ce pas ? C'est-à-dire ce Dainichi Nyorai, le dernier mot que je vous ai ici, qui est Mahavairochana. Et ceci au nom de deux, alors là aussi je vais très vite, au nom de deux idées que l'on voit constamment répétées dans la pensée japonaise traditionnelle, ce qu'on appelle la théorie du Honji Suijaku, les bases originelles que sont les Bouddhas et Bodhisattvas, et les traces descendues que sont les dieux japonais. Les dieux japonais ne sont plus des renaissances indépendantes des Bouddhas, ce sont des émanations directes des Bouddhas. Et ça se marie à une autre expression dont vous voyez tout de suite l'importance dans le cadre de notre colloque, Wako Dōjin, qui est entièrement chinoise d'origine. C'est une expression qui apparaît dans le Lao Tzu, n'est-ce pas, donc très ancienne, au moins le 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ, qui est adoucir sa lumière et s'assimiler à la poussière mondaine. Je vous passe sur le sens taoïste. C'est un terme qui a été repris par les bouddhistes chinois dans un autre sens, et les japonais l'ont repris dans leur propre acception, qui est adoucir sa lumière. Ce sont les bouddhas qui adoucissent leur lumière pour prendre l'aspect des divinités japonaises. Et la poussière du monde, la poussière mondaine, c'est-à-dire c'est le monde, notre environnement, les divinités japonaises étant senties comme plus proches des Japonais que des Bouddhas et Bodhisattvas indiens très lointains. Or, et là je dois revenir à quelques jeux de mots très littéralement, il faut savoir que les Chinois, au tout début, avant l'appellation diplomatique de Japon, avait une façon beaucoup moins élogieuse de parler des Japonais. On les appelait le pays des Wa. Alors c'est l'avant-dernière ligne, n'est-ce pas, et le caractère de gauche. Wa, il y a plusieurs interprétations, soit courbé, soit tordu, soit etc., etc. Pour vous dire la postérité de ce mot, lorsqu'on a découvert il y a quelques années l'homme de Flores dans une petite île de l'Indonésie, n'est-ce pas, ces anciens hommes qui étaient de très petite taille, les journaux chinois parlaient exactement de ce wa écrit avec ce caractère. Ça ne passait pas au Japon, vous l'imaginez bien, et on avait remplacé par un mot, celui de droite, qui est de même prononciation au Japon, qui se dit « wa » aussi, mais comme vous le voyez, c'est le même « wa » que dans le premier caractère de l'expression « wako dōjin », c'est-à-dire « adoucir ». Ça veut dire la paix, ça veut dire pacifier, adoucir, se mettre en harmonie avec quelque chose. Et vous voyez que wako peut se lire hikari o yawaragu, adoucir sa lumière. Vous voyez encore le mot hikari, du solaire. Or, grâce à cette assimilation de harmonie, paix et Japon, yawarago, qui veut dire adoucir, veut dire aussi faire passer en japonais, assimiler à la langue japonaise, n'est-ce pas ? Donc, le sens, par ce mot même, vous avez la philosophie du passage de la lumière des Bouddhas au reflet de des divinités japonaises. Et évidemment, cela va être très riche de réinterprétation, de surinterprétation. Je vais vous donner simplement quelques exemples. Je pense avoir le temps donc d'être un peu plus lent à présent, entièrement tiré de la poésie japonaise médiévale, disons de la grande période japonaise, qui est l'époque de Heian, qui va grosso modo du 9e au tout début du 13e siècle, et je vais vous donner plutôt des poèmes de la fin de la fin du 12e et du début du 13e. Et ils sont tous centrés, de façon paradoxale, pour bien vous montrer la chose, sur le sanctuaire d'Issé. Tout le monde connaît, je pense, le sanctuaire d'Issé, qui est le grand sanctuaire dédié à la déesse Amaterasu, à la déesse solaire, à la déesse japonaise par excellence, l'ancêtre de la maison impériale, qui est encore extrêmement présent dans les coutumes japonaises qui est directement lié encore maintenant au culte impérial. Vous le savez ou ne le savez peut-être pas, alors que le Japon est le modèle donc de cette assimilation des deux religions, Shinto et bouddhisme, dans le sanctuaire d'Issé, le bouddhisme est en quelque sorte tabou. On ne peut pas en parler. On n'a même pas le droit de mentionner, enfin, je veux dire, les officiants, n'est-ce pas, ceux qui en vivent en quelque sorte, ne mentionnent pas le bouddhisme, ne mentionnent pas le Bouddha, ne mentionnent pas le clergé bouddhique. On doit utiliser des périphrases, des paraphrases. Or, et c'est très ancien, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous parler des causes. Or, dans tous les poèmes que je vais vous présenter à présent, qui sont des poèmes consacrés au sanctuaire de la déesse solaire, vous allez voir les réalisations poétiques que font les Japonais à cet égard. Voici le premier que je vous donne, qui est d'une anthologie impériale, l'une des plus célèbres des 21 anthologies impériales, celle qu'on appelle le Shin Kokinshu. Tout à l'heure, je vous ai parlé du Kokinshu de 905. Ce Shin Kokinshu, littéralement le nouveau Kokinshu, c'est-à-dire les nouveaux poèmes de jadis et de naguère, ou d'autrefois et de maintenant, datent du début du XIIIe siècle. Et vous voyez ici un empereur qui a... Je ne vous parle pas du système des empereurs retirés japonais, simplement c'est un empereur qui, bien que retiré, a voulu refaire de la politique, et ça lui a fait attirer des malheurs. Ici, il fait un poème, justement, sur Issé, n'est-ce pas sur, et voilà, je vous le dis maintenant. « Que je la contemple au mont du chemin des dieux, où, les nuages dissipés, dans le ciel du soir, elle va paraître, la lune en sa clarté. » Alors, vous voyez, c'est un peu fort de Roquefort, je dirais, puisque dans ce sanctuaire d'Issé, l'empereur chante, donc le sanctuaire d'Issé de la déesse solaire, il chante la lune. Vous verrez aussi tout à l'heure. Et il y a encore pire, si j'ose dire, mais évidemment, ce n'est absolument pas blasphématoire. C'est vraiment cette philosophie, cette doctrine de l'assimilation. Le second vers en japonais, et en français aussi d'ailleurs, le mont du chemin des dieux, Kamiji no Yama, ça ne vous dit rien comme ça, mais en réalité, ça reprend exactement le terme sino-japonais, Shinto. La voie des dieux, Kami no Michi, est synonyme de Kamiji no Yama. De Kamiji, n'est-ce pas ? Donc Kamiji veut dire la voix des dieux. Et il dit ici que donc, les nuages dissipés, une fois que le caractère expédientiel, phénoménal du Shinto sera dissipé et fera apparaître sa vraie nature qui est derrière, la lune apparaîtra en sa clarté, la lune qui est Amaterasu va, disons le reflet, qui est le reflet japonais, va apparaître dans sa clarté, qui est le Bouddha Mahavairochana. Vous voyez que c'est assez intéressant. De même, vous avez ensuite une petite série de trois poèmes qui sont le fait d'un même poète, le poète Saigyo, qui vous voyez de la toute fin du XIIe siècle, et donc la fin, c'est le début de Kamakura, mais c'est la fin de l'époque de Heian. Il fait trois poèmes qui sont très intéressants, puisque vous allez voir les jeux avec le vocabulaire. Je finirai par un quatrième poème qui donnera en quelque sorte la clé. Vous voyez que, alors, il parle toujours du sanctuaire d'Issé, n'est-ce pas, et de la déesse Amaterasu, temple aux piliers enracinés sur le roc qui le porte, jamais n'est obnubilé le soleil qui y brille. Vous voyez que obnubilé, c'est-à-dire entouré de nuages, rappelle en quelque sorte le poème de tout à l'heure, le poème de tout à l'heure plutôt est un rappel. Tout à l'heure, nous avions dégagé dans sa clarté, c'est le contraire de obnubilé, n'est-ce pas ? Et si vous regardez attentivement le dernier vers en japonais, vous voyez que vous avez non pas hi no hikari, c'est-à-dire la lumière directe du soleil, mais hi no mikage, kage, donc le reflet. C'est-à-dire que le soleil ici est pris sous son sens de lumen et pas de lux, n'est-ce pas ? Avec le suffixe honorifique mi qui désigne l'appartenance à une divinité. Donc nous voyons donc l'espèce de paradoxe qui n'apparaît pas à première vue, mais qui est là, n'est-ce pas, même lorsque l'on est à Issé, le soleil que l'on contemple à Issé, au sanctuaire d'Issé, je ne dis pas n'est pas le vrai soleil, mais est un soleil dérivé du soleil ultime, qui est le soleil du grand Bouddha Mahavairochana. Là encore, il faut revenir à des histoires de famille, n'est-ce pas ? Amaterasu, la déesse du soleil, avait un frère avec qui elle a eu des ennuis aussi, comme Susanoo no Mikoto, qui est Tsukuyomi no Mikoto, ou Tsukiyomi no Mikoto, qui est le dieu de la lune. Et, je vous passe les détails aussi, elle a fini par le bannir dans le ciel nocturne, mais il cohabite et son sanctuaire est à Issé aussi. C'est-à-dire que vous avez un sanctuaire dérivé qui est la lune, le sanctuaire de la lune. Et donc, nous pouvons jouer avec les deux. Et toujours Saigyo ici a fait un premier vers. Alors, je dois vous passer pas mal de je vais quand même en dire quelques mots. Donc, au mont du chemin des dieux, vous voyez encore Kamiji Yama, c'est-à-dire le Shinto, la lune radieuse, c'est par son serment qu'elle illumine ainsi l'empire sous le ciel. Alors, vous voyez que... c'est assez amusant, parce que la lune radieuse, Tsuki Sayaka Naru, illumine l'empire sous le ciel. Si vous prenez les deux premiers mots des deux derniers vers, vous avez Ame et Terasu, c'est-à-dire Ama Terasu. C'est le nom de la déesse solaire qui est cachée dans le dieu, sous le nom du dieu de la lune. Quant au serment auquel il est fait allusion, il y a plusieurs possibilités d'explication. Tout cela est répertorié, n'est-ce pas ? Je n'invente pas, ou pas trop en tout cas. C'est-à-dire que ce sont des choses que vous avez dans les commentateurs. Il faut savoir que le serment auquel il est fait allusion, c'est le serment qui est passé justement avec le Bouddha Mahavairochana de garder intact de toute influence extérieur bouddhique, le sanctuaire d'Issé. Et donc cette espèce de pureté isséienne est garantie par le Bouddha lui-même. Et cela fait aussi allusion à autre chose, c'est que, je passe les étapes de la mythologie japonaise, mais vous avez une étape très importante qui est bien sûr postérieure, ce n'est pas dans les textes que j'ai mentionnés tout à l'heure, vous avez l'idée selon laquelle le Bouddha Mahavairochana, le Bouddha Dainichi, le Bouddha du Grand Soleil, a mis son sceau, son sceau en cinq lettres, au fond de l'océan de la mer qui entoure le Japon. Et le Japon est en réalité frappé du sceau du Bouddha Mahavairochana et frappé ontologiquement, en quelque sorte. Donc, le serment dont il est question ici fait allusion à plusieurs choses, et en particulier la garantie du pouvoir japonais, qui est Amaterasu, n'est-ce pas, et en même temps la légitimisation de ce pouvoir par le serment de Mahavairochana du Bouddha que nous connaissons tous, si j'ose dire. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi, mais vous me direz, et Shakyamuni, le Bouddha historique dans tout ça, n'est-ce pas, comme dirait Jacques Chancel. Shakyamuni est évidemment bien présent, mais c'est le Bouddha du monde phénoménal. C'est le Bouddha de notre monde. Ce n'est pas le Bouddha transcendantal, métaphysique, qu'est Mahavairochana. Et il est pleinement respecté. Et à vrai dire, par son caractère phénoménal même, il est très souvent assimilé à la lune. Ce qui va aussi influer sur pas mal de choses. Très souvent, lorsque l'on parle de la lune dans la poésie japonaise, c'est le Bouddha Shakyamuni, parce que les Bouddhas historiques apparaissent et disparaissent comme la lune apparaît et disparaît. Donc, je vous donne ici le troisième poème de Saigyō qui révèle tout, en quelque sorte. Donc, clair et radieux, du ciel des nuages. Vous voyez encore l'omnubilation, en quelque sorte. Du ciel des nuages, au pic des aigles, il adoucit sa lumière au bois de Tsukiyomi. Tsukiyomi, donc, c'est le bois du sanctuaire de la lune à Issei. Dans le sanctuaire solaire, il y a le sanctuaire de la lune. Il adoucit sa lumière. Alors, vous voyez que... C'est très amusant, enfin en tout cas, ça m'amuse. Le quatrième vers, c'est Kange Yawaragu. Je vous passe les détails verbaux. Et c'est donc adoucir sa lumière, mais au lieu de mettre Hikari, n'oubliez pas, c'était le terme fondamental, adoucir sa lumière, c'était Hikari. Là, il adoucit son reflet. C'est-à-dire qu'il joue encore, c'est l'aspect phénoménal. Même le Bouddha phénoménal se rephénoménalise un peu plus en adoucissant son reflet. Et le ciel des nuages, c'est notre ciel phénoménal. Et le pic des aigles, c'est bien sûr, je vous ai donné le mont des aigles, le pic des aigles, comme vous voulez, c'est ce qu'on appelle en chinois Ryōjusen. Ça traduit en chinois un terme sanskrit qui correspond au pic des vautours. C'est l'endroit où le Bouddha Shakyamuni a prêché le Sutra du Lotus. L'endroit en Inde, le mot indien du pic des vautours est devenu en chinois le mont des aigles, en japonais aussi, et ce mont des aigles s'est même transposé géographiquement au Japon, puisqu'il est c'est le mont Hiei qui est au nord-ouest de Kyoto. Alors vous voyez la structure vraiment presque plotinienne, si j'ose dire, où vous avez toutes les gradations de la lumière qui vont de la lumière transcendantale de Mahavairochana à la lumière de Shakyamuni, qui est déjà pas mal, et qui se concrétise pour le poète dans la clarté lunaire qu'il a au sanctuaire de Issei. Alors, je crois que j'avais trois quarts d'heure, n'est-ce pas ? Donc, voilà, nous approchons de la fin. Enfin, comme vous voyez, je dois aller au galop. Nous retrouvons en quelque sorte la conclusion de ces trois poèmes dans un autre qui est très profond et complexe, d'un grand lettré, à la fois lettré et érudit bouddhique, qui s'appelle Jien, qui est du tout début de l'époque, vous voyez, de la fin de Heian et du tout début de l'époque de Kamakura, qui avait déjà fréquenté lui-même Saigyō, qui était déjà très, très âgé à l'époque. Il faut savoir évidemment que le monde de la culture japonaise de l'époque de Heian est minuscule, n'est-ce pas ? C'est vraiment moins que Saint-Germain-des-Prés. C'est la capitale de Heiankyō, de Kyoto de l'époque, et tous les poètes étaient plus ou moins en relation. Et vous voyez que ici, vous avez en quelque sorte Enfin, je vous lis d'abord ce poème. De l'adoucissement de sa lumière, un surplus de clarté surgit sur le fleuve d'Issezu, la lune d'une nuit d'automne. Alors là, nous avons un exemple de superposition de sens si riche qu'elle frise l'excès et que je dois vous exprimer en lisant ce que j'en ai écrit parce que je ne voudrais pas trop bafouiller. La première locution, Yawaraguru Shikari, n'est-ce pas ? C'est Wako, vous le reconnaissez, la lumière adoucie, qui reprend l'idée de l'assimilation des dieux et des bouddhas. Et d'après le contexte iséien, nous comprenons qu'il s'agit de la relation fondamentale entre le Bouddha Dainichi Nyorai, le grand solaire, et la déesse du soleil, Amaterasu. Mais avec l'expression Amaru Kage, vous voyez, Hikari Kage, la clarté en surplus, le reflet débordant, où cette fois c'est le terme pour la lumière indirecte qui est utilisé, Jien nous fait comprendre que le Bouddha primordial peut certes s'efforcer d'adoucir sa lumière, pour qu'elle soit supportable aux hommes. Et je pense à l'Enaria dont parlait Alain de Libera hier. Mais il y en a toujours un débordement, une sorte de trop-plein d'être qui s'est concrétisé dans la lune, le lieu de la lune donc, Tsukiyomi no Mikoto, aux côtés de la déesse solaire. La dimension Shinto est soulignée par le toponyme poétique d'Isuzugawa, que vous avez ici, qui est la rivière qui passe le long du sanctuaire et au milieu du par une partie du sanctuaire de Dissé, qui encore davantage le poème dans le sanctuaire Dissé. En suivant l'idée principale du premier vers, on peut comprendre que ce qui reste, ce qui est en surplus, est une lumière non adoucie et donc une entité complète, ce qui redonnerait à la lune son identité de Bouddha. La lune devient Hikari, n'est-ce pas, puisque la lumière n'a pas pu s'adoucir complètement. Elle serait donc en même temps le dieu Shinto et l'entité bouddhique, de façon tout à fait conforme à la scolastique du Tendai, à laquelle Jien était donc rompue, et dont on sait que le dernier mot est l'identité du phénoménal et du réel, saisi dans la contemplation. Si nous nous fondons donc sur la pensée de Jien telle qu'elle s'exprime dans ses poèmes à thème bouddhique, nous pouvons considérer ce poème comme l'expression du retour de la lumière du Bouddha vers son état premier, à travers son détour, son adoucissement dans le monde phénoménal. Il y a identité foncière de Kage et de Hikari. Alors évidemment, l'histoire ne s'arrête pas. Si la déesse fut reléguée fort brièvement au rang de reflet, la théologie bouddhique, en évoluant, ne tarda pas à la remettre au niveau de Bouddha dont elle est du Bouddha dont elle était tenue pour l'émanation, le grand solaire, Mahavairochana. De traces descendues pour se mêler à la poussière du monde, elle devint consubstantielle au Bouddha. Mais comme le Bouddha ou les Bouddhas étaient déjà parfaitement discernables dans la longue histoire des métaphores lunaires en poésie, ce retour à l'identité primordiale venait simplement conforter la place déjà majeure de la lune et de sa clarté nocturne dans la conscience japonaise. Si le soleil levant symbolise le Japon depuis les trois derniers siècles, je pense avoir montré que la lune a tout autant de titres à se prévaloir de cette dignité et que sa clarté est peut-être plus riche encore de sens en ce pays que l'éclat aveuglant du soleil. Et je vous remercie de votre patience.